Welcome to the Revolutionary Action Dance Party, produced out of CHSR-FM in Fredericton. I'm Pierre Loisel.
Et je suis Mathieu Bourgeois.
On April 18th, 2001, Michel Chossadovsky spoke in Quebec City. Dr. Chossadovsky is the author of many works, including The Globalization of Poverty and the forthcoming book, War, Globalization, and the New World Order. He is professor of economics at the University of Ottawa. Given in both English and French, his talk is entitled The Quebec Wall, What Lies Behind the FTAA?
Le 18 avril 2001, Michel Chossadovsky s'est présenté à Québec pour donner son discours intitulé The Quebec Wall, What Lies Behind the FTAA? Dr. Chossadovsky est l'auteur de plusieurs publications, dont une bientôt attendue intitulée War, Globalization and a New World Order. Il est présentement basé à l'Université d'Ottawa, où il occupe un poste dans la faculté d'économie. Cette présentation fut donnée en français et en anglais.
Chers amis, dear friends, on se trouve aujourd'hui à un moment historique. Hier après-midi, à la Cour supérieure du Québec, un juge a décidé que oui, le mur de Québec, ce n'est pas le mur de Berlin, va à l'encontre de la Charte des droits et des libertés, mais que dans les circonstances, il est nécessaire de violer la Constitution canadienne. Et par conséquent, la Cour supérieure du Québec a donné un non-lieu à l'injonction qui a été présentée par le Comité de la liberté canadienne et l'avocat Marc Tremblay. We are at a historical juncture because just yesterday, Quebec Superior Court has ruled on an injunction, and the ruling is to the effect that there has been or there is a violation of the Constitution, but under the circumstances, it's all right because of the situation in which we are, and therefore the wall remains. So we're talking about the Quebec Wall. Now, I'd like to, first of all, give you some details about the security operation, although a lot of this material is already well documented. We are certainly facing the most important security operation directed against civilians in North American history. Nous vivons actuellement la plus grande opération militaro-policière à l'endroit des citoyens, avec un budget de 46 millions de dollars. $46 million have been allocated to the expenses of building the wall and bringing in troops from Nova Scotia, 1,200 troops. And that doesn't include all the FBI and CIA agents, which, you know, roaming the city. And incidentally, they have said they're going to do better than in Seattle. We will recall that in Seattle, what was used was essentially the militarized components of the police force, the anti-riot gang squads and SWAT teams. We are going to have a much more sophisticated police operation in this city than has ever been undertaken in North America. Il s'agit de la plus grande opération policière en Amérique du Nord. Les organisateurs ont alloué des sommes de 46 millions de dollars pour l'opération policière. La question entre le fédéral et le provincial, c'est qui va payer la note. Eh bien, on sait maintenant que c'est le fédéral qui va le payer. C'est d'ailleurs la seule préoccupation, d'ailleurs, de la classe politique québécoise, à savoir si cette note de 46 millions allait affecter les objectifs budgétaires du gouvernement, toujours dans la perspective du fameux déficit zéro. Nous savons que les policiers ont été équipés de, non seulement de cette fameuse poivre de Cayenne, mais d'un fusil Arwen 37 qui, avec des munitions, avec des balles de plastique. Donc, lorsqu'on dit des balles de plastique, c'est des balles très, très dures. Et je vais vous citer. According to an RCMP spokesperson, the 6,000 police and security forces on hand are not only equipped with pepper spray, but with the multi-shot Arwen 37 guns, which shoot hard-coated plastic bullets. And I quote from RCMP spokesperson, which says that these plastic bullets, quote, are meant to crack a rib and put them in a lot of pain. Tactical squads are usually required to test such less lethal weapons, such as tasers, which deliver electric shocks on themselves, on the police. But Toronto Police Constable Layton, I guess he's somewhere around, said that it would be too dangerous to do that with the Arwen. And in addition to that, we now know that the Canadian Armed Forces from Nova Scotia have rushed in 1,200 military personnel. What is behind this massive police operation? What is the hidden agenda of this summit? I think we have to understand that this is not a trade deal, okay? This is not a trade deal. In fact, the trade rep for the United States, Mr. Robert Zelnick, is a member of the national security team, very close to Colin Powell's Condoleezza Rice. He was in the national security team in the first Bush administration of Papa. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les enjeux ne sont pas des enjeux commerciaux, on le sait déjà. Ce sont des enjeux géopolitiques et stratégiques parce qu'en arrière du projet de libre commerce, il y a un projet qui vise en fin de compte la destruction de nos institutions et en fait de la vie sociale dans les Amériques. Et en même temps, il y a un projet de militarisation des trois continents. Cette militarisation, elle a été d'ailleurs signée lors d'un accord de coopération militaire entre 27 pays. C'est la déclaration de Manaus. Elle est antérieure, elle a été signée au mois d'octobre dernier. Elle n'est pas officiellement à l'ordre du jour de ce sommet, mais elle est bien sûr débattue en coulisses et on sait très bien qu'il y a un lien pratiquement symbiotique entre le libre commerce et les enjeux stratégiques, géopolitiques et militaires. Et nous savons également qu'il s'agit de faire une militarisation, une véritable militarisation du continent sud-américain par l'entremise du plan Colombia. Donc, il ne s'agit pas ici strictement d'un projet de libre-échange, c'est un projet d'hégémonie politique. On pourrait l'appeler par son vrai nom, l'Empire américain. Let us call free trade by its name. This is the American Empire. And those who are negotiating the American Empire behind closed doors are very much linked up to the national security apparatus of the United States. This free trade, so-called free trade agreement, redefines fundamental social relations. It defines a whole social existence of sovereign nations. It is accompanied by the militarization of South America through the Plan Colombia, but it also, in a sense, enshrines fundamental changes into a set of legally binding documents, which are then entrenched in international law. Parce qu'il faut comprendre que les enjeux de l'ASLEA sont des enjeux qui enchassent un certain nombre de changements dans les textes fondamentaux. Les textes fondamentaux, c'est le droit international. Ça ne veut pas dire que ce droit international est nécessairement adopté de manière légitime par les parlements, etc. Bien sûr que non. C'est un accord technique qui est ensuite enchâssé dans le droit international, qui se place maintenant au-dessus de tout. Et comprenez bien que lorsqu'on enchasse certains mécanismes, on crée également les conditions de l'effondrement des institutions. Et un des mécanismes, je n'entrerai pas dans les détails, mais un des mécanismes de cet accord, c'est ce qu'on appelait le traitement national, national treatment. National treatment veut dire que les gouvernements doivent donner les mêmes traitements à des investisseurs étrangers qu'à des investisseurs locaux ou à des producteurs locaux. Mais lorsque vous étendez la définition des investissements à toute activité de la dite société civile, incluant les écoles, les garderies, les centres sportifs, les milieux associatifs, les égouts, l'eau, etc., eh bien, vous engagez un processus qui aboutit à la privatisation de toutes ces activités. Ce que toute activité sera transformée en valeur marchande par le processus d'enchasser ceci dans la constitution, dans une constitution internationale qui sera un accord international qui sera au-dessus des lois. Et alors, si vous regardez ce qui se passe présentement au Québec avec la santé, par exemple, eh bien, la santé est soumise au sous-financement. Eh bien, ce sous-financement, en fin de compte, c'est le préalable à une privatisation, parce qu'en fin de compte, c'est une privatisation de facto qui va s'articuler là-dessus. Mais une fois que l'ASLEA est signée, la santé publique disparaît. Okay? Disparaît. Pas nécessairement du jour au lendemain. Les écoles publiques disparaissent parce que un investisseur qui pourrait venir en chaîne de McDonald's ouvrir des cégeps au Canada dirait, nous voulons les mêmes traitements, les mêmes subventions que vous donnez à vos institutions publiques. Et alors là, on enchaîne un processus de concurrence entre le privé et le public. La même chose pour les garderies. Quelqu'un de l'Arizona viendra et dit, on le fait pas pour 5 piastres, on le fait pour 4,5. Et puis, on a des appels d'offres là-dedans. Donc, il y a un système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est remis en question. Le projet de société dans son ensemble est remis en question. The basic and fundamental mechanism behind this free trade, so-called free trade agreement, or one of them, is the so-called clause on national treatment. What this clause on national treatment implies is that you must give the same rights to a foreign investor as to a local investor. But when you define investment in an all-encompassing fashion to include everything from the financing of Boy Scouts to daycare centers to sports clubs to municipal activities, what do you have? What is the end result of that process? It is the transformation of all those social activities, namely those of the welfare state, into profit-making undertakings. In other words, it is the disappearance and the dismantling of an entire institutional structure. With regard to cities, bear in mind, very important, with regard to cities, what will happen? The same mechanism. We're now living in Quebec under this famous Law 170. In Ontario and other parts of the continent, other processes are ongoing. What do they want to do under Law 170? Qu'est-ce qu'on veut faire avec la loi 170? On veut intégrer l'espace et ensuite on veut privatiser l'espace. The basic and fundamental mechanism behind the free trade agreement is the deregulation and ultimately the privatization of all social services right down to the municipalities. That means that municipalities do not exist anymore. Ça veut dire, par exemple, que la communauté urbaine de Montréal, même avec Pierre Bourque, deviendrait Montréal incorporée. Elle serait gérée par des sociétés privées, peut-être Lavalin, etc. Et ça serait semblable, it would be similar to what we have, what exists in the United States. You might see them in California and Arizona, the so-called gated communities. They wouldn't be gated, but they would be controlled by private corporations, the highways, the inner urban space, the institutions, the school boards would be run by private companies. Bill Gates would set up a network of contracts with schools right through the hemisphere with, you know, with video cameras and so on. In other words, it is the privatization of the welfare state. C'est la privatisation du projet de société. En dessous de ça, si on regarde la situation qui existe en Amérique latine actuellement. L'Amérique latine, c'est-à-dire les 32 pays du continent ou des trois continents, sont soumis à ce qu'on appelle des programmes d'ajustement structurel sous le Fonds monétaire et la Banque mondiale. C'est les mesures draconiennes qui sont imposées depuis au moins une vingtaine d'années, début des années 80. In Latin America, the IMF Structural Adjustment Program has led to devastating economic and social consequences. It is under the jurisdiction of the IMF. We are living in Canada, also a form of structural adjustment, but it is managed and implemented otherwise. It's still under the dominion of creditors. In Quebec, it's under the deficit zero. It consists in destroying social programs. But in Latin America, it has been, of course, much more devastating. And these IMF reforms are imposed in the context of the renegotiation of debt. They are, in other words, they are based on what is called loan agreements. Now, these loan agreements, you sign with the IMF, and the IMF says, you do this, you do that, you close down the schools, privatize, deregulate agriculture, open up your borders, push the interest rates up to 550%. That's what happened to Turkey a few weeks ago. 550%. And the currency collapsed by 45%. Standard of living is cut in half. Now, what happens under the free trade agreement? Under the free trade agreement, IMF medicine becomes permanent. It becomes enshrined. It is not subject to an ad hoc agreement or negotiation with creditors. You understand what that means? In other words, what happens, people from Latin America will understand. You negotiate on an ad hoc basis with the IMF. They set conditions. You can always say, no, we won't do it, and then they cut off the disbursements. But what the FTAA rules will say is that IMF medicine is compulsory, whether you receive money or not. It doesn't matter. You have to follow IMF medicine. In other words, it becomes entrenched, it becomes enshrined. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mesures draconiennes du Fonds monétaire et de la Banque mondiale deviennent maintenant, en quelque sorte, enchâssées. Ça veut dire que le Fonds monétaire, maintenant, on n'a pas besoin, on ne négocie même plus avec le Fonds monétaire. On n'a même pas le droit de négocier avec le diable. Okay? La nuance, si vous voulez, c'est entre le travail forcé et l'esclavage. Countries presently are bonded to their creditors, but they are not enslaved in terms of permanent articles entrenched in international law. That is the fundamental difference. Okay? So that the Latin American countries And our friends from Latin America who are coming and debating, they understand this. They have lived this experience of IMF reforms the last 20 years and the devastation that this has brought. And what is now at stake is to make that medicine absolutely mandatory, irrespective of negotiations. You wouldn't get any money for it, okay? You go to your creditor and say, I want to have a loan. The IMF will say, well, listen, we're not in charge of policy reform anymore. You have to do it irrespective of whether you get the money or not. So that here we have a different level of enforcement. Okay? Sovereignty, la souveraineté des pays d'Amérique latine, des pays en développement en général, est brimée par le Fonds monétaire international. Mais il est brimé dans le cadre des mécanismes d'endettement, à savoir que les créanciers imposent des réformes, obligent les pays de fermer les écoles ou les hôpitaux, etc. Et s'ils ne le font pas, on coupe les décaissements au titre du prêt à l'ajustement structurel. Mais avec l'ASLEA, on a quelque chose de fondamentalement différent, parce que, en quelque sorte, les politiques du Fonds monétaire international deviennent enchâssées. Ils sont permanents. Donc c'est la nuance entre, entre être pris dans l'engrenage de la dette et d'être totalement soumis à une réglementation qui relève de normes supranationales. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Vous le savez, que la dollarisation n'est pas officiellement sur l'ordre du jour de ce sommet. Mais il faut bien comprendre, d'abord, qu'on en parle dans les coulisses, on en parle à huis clos, et on parle également d'une déréglementation financière à l'échelle de l'hémisphère occidental, qui permettra au capital financier américain d'étendre son contrôle sur l'ensemble de ces 34 pays. Parce que le même mécanisme que j'ai décrit pour les services sociaux s'applique, c'est une autre série de mécanismes, c'est l'accord sur les services financiers. Il est calqué sur des clauses analogues qu'on retrouve dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ou même l'AMI, l'AMI-SAL, okay, l'accord multilatéral sur les investissements, à savoir que si on déréglemente les services financiers, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, en fin de compte, que le système bancaire national n'existe plus. Okay? Concrètement, au Canada, ça veut dire il n'y aura plus de banques canadiennes. Peut-être que ces banques vont encore afficher des drapeaux. Il y aura peut-être encore les caisses populaires. Mais ce que ça veut dire, c'est que toutes les banques nord-américaines, essentiellement américaines, pourront venir s'établir ici, se mettre ensemble avec les banques à charte, en fusion, faire des mergers, acheter, faire des OPA et contrôler effectivement le système monétaire et bancaire canadien. Okay? In other words, dollarization is not officially part of these meetings, but dollarization. And when I say dollarization, it means the adoption of the U.S. dollar as the currency for all 34 countries. Okay, that is what it means, and it has some very important implications. Because it really means the loss of sovereignty, total loss of sovereignty. Why? Because the control over monetary policy is the key to any kind of social project. Okay? If you create money and credit, that is the basis for financing public programs. It's the basis for subsidizing municipalities. It's the basis for supporting agriculture, which they're not doing, incidentally. I mean, we're already in that phase of a Bank of Canada, which is in decay. But that is the function of monetary policy. And when that sovereignty is taken away and replaced by the Federal Reserve Board, which is the central banking institution in the United States, but which is not a public institution, please understand, the Federal Reserve system is not a publicly owned bank. It is a bank which is controlled by a handful of large Wall Street banks, mainly Wall Street, but there are other banks. There are 12 branches of the Federal Reserve system. Okay? Now, what they really want to do is first deregulate the financial system altogether. Okay? No more Canadian banks, no more Mexican banks, no more Chilean banks, just good old American banks. And then, de facto, the US dollarization will proceed. Monetary policy in each of the individual countries will be wiped out, and what we'll have is the US dollar. Perhaps we'll stick the Queen's picture on it. It will be at 50 cents, because that's really the cutoff point, okay? We'll have a nice, neat 50 split. Clearly, in Canada, that means the collapse of wages. It means that the country can be bought up at a discount. That means assets can be acquired. In Latin America, the situation is, of course, is far more serious because the dollarization process has engulfed several countries, okay, including Argentina, Ecuador, El Salvador, and Guatemala, and Panama, okay, and many other countries, many of the countries in the hemisphere may not be officially using the US dollar, but in effect, they are totally subjected to the trusteeship of the Wall Street banks. And what this implies is the formation of what we call currency boards. Currency boards don't do anything, they just print paper. They don't have any kind of monetary policy attached to it. You need full foreign exchange backing to finance a school or a hospital or whatever. That means Wall Street controls. You want to build a school in Chile, you have to go and ask George Soros to finance it. That's what it means. La dollarisation du continent, ce qui signifie qu'on adopterait le dollar américain comme la monnaie officielle de tous les pays, éventuellement avec des changements d'ordre scriptural sur le billet. On appellera ça des dollars canadiens, mais avec une valeur de 50 cents, parce qu'on coupera ça à 50 cents, c'est plus facile à faire. Et qu'est-ce qu'on aura? Toute la réglementation en matière de politique monétaire ne sera pas localisée à Ottawa, Toronto ou Montréal, elle sera à Washington et à New York. Ce ne sera plus la Banque centrale du Canada, ce ne sera plus la Banque centrale du Mexique ou la Banque centrale du Brésil, ça sera la Federal Reserve System, le système de la réserve fédérale américaine, qui est une banque, qui n'est pas une banque publique, c'est les actionnaires du Federal Reserve System sont des banques privées. Le Federal Reserve Board dépend du Trésor, ce sont des fonctionnaires, mais ceux qui contrôlent en arrière, c'est les grandes banques de Wall Street. Et par conséquent, cette dollarisation du continent n'est nullement comparable à ce qu'on a vu en Europe avec l'euro, où il y a quand même une balance de force entre la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Ici, c'est l'imposition d'une monnaie qui est celle du pouvoir hégémonique américain et qui se fonde précisément sur l'imposition. Et ça veut dire aussi, surtout pour les pays comme l'Équateur qui vivent maintenant une situation où le dollar a été adopté et où le niveau de vie s'est effondré. Dans un pays qui est déjà pauvre au point de départ, le niveau de vie s'effondre. L'Argentine, le niveau de vie s'effondre, mais de manière dramatique. En l'espace de quelques années, on parle de 50, 60, 80% du pouvoir d'achat est liquidé. Okay? C'est ça qui est en train d'arriver. C'est un appauvrissement à outrance. Et qui, d'ailleurs, mènera aussi, qui crée encore les conditions de cette baisse dans les salaires. Les salaires vont être exprimés en dollars, mais les salaires que vous allez avoir en Amérique latine ou dans les Caraïbes vont être un 20e ou un 40e de ce qu'on paie en Amérique du Nord. Les travailleurs dans les différents pays vont être poussés les uns contre les autres. Et c'est ça. Ça, c'est le mécanisme d'intégration financière et économique qu'on vous propose sous l'emblème du dit libre-échange. Le libre-échange signifiera également que les travailleurs vont être mis en concurrence et les salaires vont chuter. C'est ça la fonction. Et en même temps, le capital aura tout le loisir de se démobiliser là où les salaires sont moindres, afin d'exploiter des gens qui sont prêts à travailler un dollar par jour. Et notez bien qu'un dollar par jour, aujourd'hui, si on regarde le tiers-monde, c'est considéré comme un salaire élevé, parce qu'il y a des pays où on n'atteint pas le 10 ou 15 dollars par mois. Et dans certains pays, le Fonds monétaire international intervient et dit « Vous ne pouvez pas augmenter le salaire au-dessus de 15 dollars par mois parce que vous ne serez plus concurrentiel. » C'est ça le genre de conditions et de monde qu'on veut nous imposer. Et comprenez bien que la militarisation et la dollarisation sont les pièces angulaires de l'Empire américain. Militarization and dollarization are the essential building blocks of the American Empire. This is not strictly an economic project. It is a strategic geopolitical project. It involves the militarization of the continent. It integrates these different things in a very specific way. It attempts to build a consensus around some bogus. I mean, if you look at the discourse this morning, you read the press, is that you listen to the news, they say, we're going to insist on a democracy clause, that any country who is not democratic will be excluded, okay? Now, I'd say Canada should go out to start, okay? Yeah. Now, I think we have to understand the complicity of the civil society organizations. And I don't want to generalize, but I mean, I think it's not the complicity of the rank and file of these organizations. It's the complicity of trade union leaders, AFL-CIO, Canadian Labour Congress, FTQ, Henri Massé. The issue we have to decide upon is who is in, who is out. It's interesting that at the court hearings last week, the government spokesperson, Mr. Ricard, made some statements as to what he calls accommodating measures with a view to supporting freedom of expression. Je vais traduire en français. J'ai ici l'affidavit de M. Ricard, qui était le porte-parole du gouvernement fédéral concernant l'organisation du sommet et qui fut d'ailleurs confronté par l'injonction qui a été déposée en Cour fédérale à la Cour supérieure du Québec par le Comité de la liberté canadienne et l'avocat Marc Tremblay. Alors, j'aimerais vous lire, c'est intéressant, ça s'appelle « Les mesures d'accommodement dans l'optique de la liberté d'expression ». Okay? Je vais vous lire, okay? C'est comme c'est en français, it's in French, so I'll have to read in French, but I'll give you a translation. Les principales mesures d'accommodement proposées par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international sont les suivantes. Existence de sites alternatifs de manifestation. Okay? Les mesures d'accommodement dans l'optique de la liberté. L'existence de sites alternatifs de manifestation. Je présume que c'est nous, ça. Okay? Invitation. Ah, ça c'est une bonne là. Invitation au sommet d'environ 60 représentants de groupes d'intérêt et de pression. OK? C'est qui ça? Je peux vous dire qui c'est. C'est le Congrès du travail du Canada, Ken Giorgetti. C'est le président du AFL-CIO, John Sweeney. C'est le président de la FTQ, Henri Massé. Et d'autres individus. Certains ont décliné cette invitation. C'est Matthew Kumkon, des Autochtones également, invité, il a accepté. Bref, the question is, who is in and who is out? Ce qu'on observe dans tous ces sommets des peuples, et j'ai moi-même assisté à plusieurs sommets des peuples dans le cadre du G7, FMI, Banque mondiale, eh bien, c'est le rituel de la contestation qui vise à créer, voire même à financer, parce qu'ils sont financés, des activités parallèles. Mais bien sûr, ces activités parallèles ne parlent pas de, et je ne fais pas la critique des débats, parce qu'il y a d'importants débats au sommet des peuples. Okay? Je parle essentiellement des dirigeants qui sont de connivence avec le pouvoir politique et le monde des affaires. Souvent, ils sont de connivence, peut-être sans s'en rendre compte, c'est ce qui est encore plus grave. Mais les questions plus controversées sur la sécurité nationale ne sont pas débattues lors des contre-sommets. La légitimité du sommet officiel, c'est-à-dire la légitimité de l'Empire américain, n'est pas remise en question. Okay? C'est la même chose que la légitimité de l'Inquisition espagnole. Elle n'est pas remise en question. Ce qu'on voudrait, c'est de modifier, amender l'Inquisition espagnole. On voudrait que la torture soit plus humaine. Okay? C'est ça qu'on veut. Mais c'est exactement ça. Et on a besoin des spokespersons de la société civile pour le faire. Okay? Ils vont parler de droits de développement soutenable, ils vont parler des droits de la personne, ils vont parler des ajustements structurels, etc. Des choses qui sont importantes. Mais lorsqu'il vient le moment, donc c'est pas nécessairement les débats qui sont l'enjeu, mais lorsqu'il est question de prendre position, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, nous voulons des clauses. When it comes down to taking a position, the civil society organizations and the trade unions, what do? They say we want environmental clauses, we want our labor codes, we want human rights codes, we want the democracy clauses. That's what they want. And then what they will say is, we've been pressuring and lobbying, and we're on the inside, we're on the outside. Our people are on the side negotiating, our people on the outside being hit by the police, doesn't really matter. But we are trying to negotiate changes in the official documents by adding in commas. It's not going to change. It's not going to make one iota of difference whether you have a comma here or a comma there or a clause here or a clause there on labor rights or human rights. Because the fundamental mechanisms, which I've discussed earlier, national treatment, dollarization, militarization, destruction of the welfare state and deregulation of labor markets, etc., that is what's going to determine whether there's democracy or human rights, etc. In fact, the national security state system, the police state system, is built into their economic and social proposals, into their trade proposals, because it destroys and it pushes the system against the people, the citizens. And we must understand that there is a certain ritual of dissent. The ritual of inviting civil society leaders into the inner circle of power. That's what they're doing, okay? Now, this is nothing new. They did it in Davos, okay? If people followed what was going on in Davos, talking about Davos, the global business summit, back in January, okay? You read about it in the newspapers, and then you see civil society leaders there in the counter Davos, and people are being hit by police and sprayed with water cannons, right? Now inside, did you know that inside, I'll mention the names of the people who were inside, okay? Some of them at least. Greenpeace, Amnesty International, Save the Children, they were all there.
Who are them?
Giorgetti, Sweeney.
Who are them?
59 organizations of civil society were inside Davos. Meanwhile, the rank and file, mingling in a friendly environment with George Soros, Bill Gates, and World Bank President James Wolfson. Meanwhile, outside the conference center, the rank and file of these same organizations were being clobbered by the Swiss riot police. That is the rules of dissent. To quote the CEO of Greenpeace, I think it's Greenpeace, but somebody there, it's either Greenpeace or Save the Children, they call it the rules of engagement. The rules of engagement. Okay, we have to work together. How do we do it? And what we're dealing with in the New World Order is a ritual of inviting civil society leaders into the inner circles of power while simultaneously repressing their rank and file, and that serves some very important functions because it first points to public opinion that the critics of globalization must make concessions. They must make concessions to earn the right to mingle with George Soros and James Wolfson. Okay? We're not going to invite you guys in if you're not going to negotiate with us some kind of deal. Secondly, it conveys the illusion that while these global elites should be subject to criticism because we're in a so-called democratic society, that nonetheless, these global elites have legitimacy, okay? We don't question their legitimacy. That is the basis. We have to question their legitimacy if we want to disarm the system. And thirdly, it says there is no alternative. Tina, there is no alternative to globalization. Fundamental changes are not possible. All you can hope for is some give and take with these rulers, and that is the kind of ritual which these power brokers of civil society are engaged in. They are brought into a dialogue, they are made comfortable, they are treated like global citizens acting on behalf of the rank and file, but when in fact they are serving the interests of global capital. And while the globalizers may take a few progressive stands to demonstrate their good intentions, they are ultimately interested in reinforcing their clutch on citizens, and they also want to divide and weaken the protest movement. And that's why we're here. Mais essentiellement, on a un processus de cooptation des leaders de la dite société civile. Je pense que les grandes centrales syndicales, en premier lieu, on les invite à Québec, on les invite à Seattle, c'était à Seattle, dans les salles de conférence, dans les cocktails, on les invite à Davos, et en même temps, les membres, le grassroots de ces organisations, on les tape dessus dans des opérations policières, et souvent ce sont des gens des mêmes organisations, ok? C'est ça qui est encore pire. Et à Davos, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui étaient à l'intérieur en train de parler avec George Soros, ils sont sortis à l'extérieur et ils ont dit « Ah, c'est pas juste que nos militants se fassent taper dessus ». Mais c'est ça le rituel de l'opposition à la mondialisation, c'est le rituel de l'anti-mondialisation que nous vivons actuellement. Et nous devons comprendre que ce processus de cooptation joue un rôle important parce que à Prague, à Washington, à Seattle et à Québec, dans tous les sommets, des dizaines de milliers de jeunes et de personnes moins jeunes également sont présents et sont impliqués dans un mouvement contre le nouvel ordre mondial parce qu'ils rejettent la notion qu'il faut commercialiser le projet de société. They reject these young people in Seattle, Prague and Quebec are involved in protest because they reject the notion that money is everything, because they reject the impoverishment of millions and the destruction of fragile earth. Des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes sont impliqués dans ce mouvement parce qu'ils rejettent précisément, non pas les virgules des textes officiels, mais l'ensemble du processus, qui est un processus d'empire. Et ce n'est pas le déclin de l'empire américain, pour ceux qui ont vu le film. Et ça, ça veut dire qu'on a besoin de remettre en question ce système. We need to challenge the right of the globalizers to rule. We have to rethink the process of protest. And essentially, we have to get to the legitimacy of what is being negotiated. And when I say we have to get to the legitimacy, we also have to understand the inner corridors. We have to understand these mechanisms, how they function. But we also have to get into the inner corridors of how these trade deals are negotiated behind closed doors. Je pense que c'était absolument essentiel d'exiger la publication des textes. Et c'est important de les avoir. Et c'est une victoire. Mais nous connaissons l'essence de ces textes. Nous savons ce qu'il y a dans cet accord. Nous savons les implications de cet accord. Nous savons que cet accord va détruire. Alors il n'est pas question de commencer à mettre des clauses environnementales ou des clauses pour le droit au travail, etc., telles que prévues par les principales centrales syndicales. Mais j'aimerais vous dire une autre chose. En ce moment, le négociateur américain, M. Robert Zoellick, est en train de préparer ce qu'on appelle « fast track » legislation. Ça veut dire une procédure qui permettrait à l'accord du libre-échange de passer par le Congrès sans amendement. Okay? Ça veut dire qu'en fin de compte, le projet d'empire n'est pas soumis au processus des lenteurs parlementaires. C'est ça que ça veut dire. Okay? What I'm saying is that George W. Bush's trade negotiator Robert Zoellick is preparing fast-track legislation packaged under what is called Presidential Trade Promotion Authority. What he wants to do is to rush the whole thing through very quickly through Congress without amendments because the empire cannot be amended. In other words, instating the American empire through a trade deal, through dollarization, through militarization, is not going to be subjected to the uncertainties of parliamentary debate. And I guess that the Canadian, all the parliaments in Latin America, in any event, are bogus institutions. They're all going to implement some kind of fast-track legislation to get this whole thing through. Now, there are other negotiations taking place behind closed doors, and that's where these civil society guys come in. Il y a d'autres négociations qui se font à huis clos et c'est là où les organisations de la société civile sont impliquées et je parle essentiellement des centrales syndicales parce que aux États-Unis, c'est le Business Roundtable qui est vraiment intégré par des grandes corporations et le Emergency Committee for American Trade, ECAT. Donc, ces deux organisations travaillent de pair, et à l'intérieur de ces organisations, vous avez les plus grandes sociétés mondiales, américaines, qui dominent et qui également sont impliquées dans la rédaction des textes. Okay? Eux, ils ont les textes. En fait, on dit que 500 grandes sociétés possèdent déjà ces textes, okay? Alors que les citoyens ne les ont pas. Pourtant, ces grandes sociétés, ces corporations sont des citoyens comme nous. Pourquoi est-ce qu'eux auraient droit de voir ces textes et pas les citoyens? Eh bien, c'est parce qu'eux sont en train de les formuler. Alors évidemment, ils savent ce qu'il y a dedans. What I'm saying is that you have the Business Roundtable and the Emergency Committee for American Trade, ECAT, which is integrated by the representatives of America's largest corporations. And they have the documents. They have the documents because they draft the documents. Okay? Well, the documents are drafted by officials, but they're in close contact with these business groups. And these are the power elites in the United States. The Business Roundtable and ECAT call the shots. But what is the agenda of the Business Roundtable? It's very important. I'll tell you what the agenda of the Business Roundtable is. They are pushing the line, the same line as the civil society organizations. Quote, to make labor and environmental standards part of future trade talks. That is what the Business Council and ECAT are doing, and they're doing it in consultation with organized labor, with the AFL-CIO. That is what is happening. So that John Sweeney gets together with the corporations, they discuss behind closed doors. It is very appealing now for the business community to present the free trade agreement in some marketable form. Okay, they want to sell it like some new model automobile. It will have a human rights body and a democracy steering wheel and it'll be an environmentally friendly agreement. They want to insert all these labels, all the ritual inside the agreement, and the unions are pushing it. Okay, if you read the speeches of Henri Massé, they'll say we're against neoliberalism, we think it's a bad system, blah 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 blah. And I fully agree with what they're saying. The statements are well drafted by people who work for the unions who understand that and who are sincere. But then the union bosses go, and what do they negotiate? Their usual clauses. They're putting in commas here and there in the agreement. So that behind the closed doors, that is what's happening. And I wouldn't be surprised that the end of this, I don't want to make any predictions, but you're going to have a lot of official pronouncements on the insertion of these clauses into the agreements. Democracy, environmental, women's rights, etc., specific clauses, and then some, not all, but some of our civil society organizations will then cry victory, we've done it, we've achieved global showdown, and we have won the day. What they have won has already been proposed by the Business Roundtable. And we must be very careful that this is, that we're not dealing with an agreement which can in any way be amended. It cannot be amended. Because by inserting these clauses in the agreement, essentially you provide legitimacy to the globalizers, to the onslaught of dollarization, militarization, destruction of institutions, literally wiping it out, entrenched in international law, in an all-encompassing process which destroys people's lives. And what I'm saying here is the American empire cannot be amended. It must be rejected, it must be fought, it must be defeated, and the FTA must be closed down. Je vais devoir répéter tout ça en français, là. Je pense qu'il faut comprendre que les acteurs, les mondialiseurs, si on peut les appeler ainsi, c'est-à-dire le milieu des affaires aux États-Unis, ont déjà décidé quel genre d'accord ils veulent. Ils sont tout à fait disposé à mettre des virgules ou là où il faut mettre des virgules. Ils ont déjà engagé un débat avec les représentants de la société civile. D'ailleurs, il y a des mécanismes de consultation qui sont établis dans le cadre de l'ASLEA. Mais plus important, le Business Roundtable et le Emergency Committee for American Trade, qui est intégré par ces grandes corporations, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de proposer ce que certains de nos syndicats sont en train de proposer. Parce que vous allez au site web des syndicats, vous allez lire, vous allez avoir une très bonne analyse, et ensuite, ils vont dire, on a besoin de clauses du travail, clauses environnementales. Ils se basent tous sur les fonds, sur des articles de l'Organisation internationale du travail. Ils ne remettent pas en question l'Empire américain. Ils ne remettent pas en question le projet hégémonique. Ils ne remettent pas en question la destruction des écoles, des universités, des centres de santé et le fait que les hôpitaux vont être pris en charge par les sociétés d'assurance. Ils ne rejettent pas la dollarisation et l'imposition du dollar américain. Et ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, le Business Roundtable est en train de négocier à huis clos avec les dirigeants syndicaux. Et de fait, ces mêmes organisations, en ce moment, ont pratiquement la même ligne. Ils proposent effectivement qu'on ait dans les accords sur le commerce, des clauses environnementales, des clauses démocratiques, des clauses ci et ça. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Certains, pas tous, certains dirigeants de la société civile vont dire « Ah ben oui, on a gagné. On a nos petites clauses niaiseuses dans l'accord. On a mis les virgules. On est bon. On a gagné. » Et sans réaliser qu'en fin de compte, ce projet... Ces clauses n'affecteront nullement les mécanismes qui sont sous-jacents, dont j'ai parlé, qui sont militarisation, dollarisation, déréglementation des services sociaux, privatisation des villes, etc. Par conséquent, il faut comprendre, en ce qui nous concerne, que l'Empire américain, le projet d'Empire américain, n'est pas quelque chose qu'on voudrait amender. Il doit être rejeté. On doit se battre et il doit être annulé et détruit. Et en même temps, nous devons nous opposer fermement à cet accord de libre-échange. Merci.
You've been listening to Michel Chasudovsky speaking on the Quebec Wall. What lies behind the FTAA? On the Revolutionary Action Dance Party, produced out of CHSR FM in Fredericton. To contact us, pour nous contacter, email rad@chsr.net or call area code 506-453-4985. Thanks for listening.